les interviews de Visionary Marketing pour tout savoir sur l'innovation, le marketing, les startups et bien plus encore.
Alors aujourd'hui, j'accueille Pedro Abrantes. Pedro, tu es un serial creator de start-up depuis des années. Tu as près de 20 ans, 25 ans d'expérience dans le domaine et 20 ans dans l'enseignement. Tu diriges également le master Start-up Digital à Subdeweb. Et oui. Aujourd'hui, on va parler du nombre des start-up. En fait, ce qui a motivé cette petite discussion autour du téléphone, c'est une conférence qui a eu lieu avec nos amis du G9+, qui annonçait des chiffres de start-up créés en France tous les ans par rapport au nombre de start-up créés en Angleterre. Alors, on s'est tapé dans les 200 ou 200 000 ou 300 000 start-up. Et là, je me souviens que tu m'as interpellé sur Twitter pour me dire « Mais attends, les chiffres, ça va pas, c'est pas bon. » Est-ce que tu peux revenir là-dessus, nous expliquer ça ?
Oui, alors, j'ai eu une réaction d'étonnement par rapport aux chiffres qui m'ont paru exorbitants par rapport à la réalité du terrain. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur l'INSEE et j'ai regardé comment se décomposait le nombre de créations d'activités actuellement, tout confondu. Et au mieux, en essayant de séparer, parce que on manque cruellement de données factuelles aujourd'hui. Mmh. En essayant de séparer les choses, au mieux j'arrive à quelque chose qui pourrait ressembler à 100 000, 150 000 créations par an de sociétés qui peuvent ressembler à une start-up. Et le premier constat que je fais, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de données publiques, encore une fois, il faut que ce soit des données qui soient accessibles à tout le monde, de données publiques qui permettent de sectoriser clairement ce qu'est une start-up et combien il y en a, et à quel stade elles sont, que ce soit en termes de stock, combien il y en a qui se sont créées depuis, 1990, et combien ils s'en créent tous les jours.
Ouais. Alors, revenons sur les chiffres. Il se crée combien d'entreprises en France, déjà, pour commencer ?
Alors, grosso modo, en ce moment, c'est de l'ordre de 300 000 entités. Et dans les 300 000, je mets non seulement les sociétés au sens SARL, SA, sous toutes ses formes, et autres formes de sociétés, que les entreprises individuelles et que les auto-entrepreneurs. Mmh. Et là, c'est un global. D'accord. Et on en perd autant que l'on en crée.
D'accord. Donc déjà tous les ans, 300 000 entités qui se créent, à peu près la moitié, pour simplifier, qui sont des sociétés qui ont pignon sur rue, et la moitié qui sont des entrepreneurs individuels et des camions à pizza. Enfin, dans les camions à pizza, il y a aussi des entrepreneurs qui créent des start-up. Alors, qu'est-ce que c'est une start-up déjà pour commencer ?
Alors, je vais répondre à la première question. Plus d'auto-entrepreneurs que tout le reste. Plus de gens qui sont effectivement plutôt dans l'ombre et cachés que ceux qui se mettent en avant et ont une vocation à créer une start-up. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une start-up ? J'aime beaucoup la définition qu'on avait entre 2008 et 2012, qui est cette notion de gazelle. Donc, qu'est-ce que c'est une start-up ? C'est une société qui a vocation à très souvent innover, disrupter son secteur. C'est-à-dire qu'elle va soit avoir un procédé nouveau, soit une démarche de commercialisation totalement différente. On prend comme exemple souvent Airbnb, premier hôtelier mondial sans avoir aucun actif hôtelier en portefeuille, sans avoir investi pour créer un hôtel, puisqu'il utilise les chambres qui existent déjà à des particuliers. Pareil pour un Uber qui est première compagnie de taxi mondiale, mais qui effectivement n'a aucun taxi à elle. Et on est là sur des sociétés qui vont avoir une croissance fulgurante. C'est-à-dire qu'on va passer de de 0, 1 collaborateur à peut-être 50, 60 en 6 mois, en 2 ans.
Et ça, sur les 300 000, on n'a pas 300 000 qui sont comme ça.
Non, c'est impossible d'en avoir 300 000 comme ça. Donc en faisant un calcul dans lequel on dit, OK, on a à peu près 2 tiers de SARL et 2 tiers de SA, alors, sachant que les SA ont plus une vocation à faire rentrer des investisseurs, c'est plus simple à gérer. Grosso modo, on peut se dire qu'au total, au max, on pourrait être à 150 000 structures qui seraient potentiellement dans le focus que l'on recherche.
D'accord. Ça, c'est on parle de stock ou on parle de création ? On parle de création.
Là, on parle de création pure annuelle.
D'accord.
Et là-dessus, on sait qu'il y en a 50% qui vont disparaître dans les 5 ans.
D'accord. Mais sur ces entreprises, sur ces 150 000 entreprises, il y a, certainement une grosse majorité d'entreprises dans le bâtiment, dans la restauration, dans le tourisme.
Alors, effectivement, on pourrait détailler de façon un peu plus précise, en fonction des secteurs, là où se trouve la société. Mais encore une fois, on peut être société innovante, on peut être start-up dans le bâtiment. On peut apporter une nouveauté qui va complètement modifier le comportement d'un marché. Et la start-up n'est pas que liée au digital. On entend souvent l'association start-up et digital et numérique. Or, pas du tout. On peut être start-up dans n'importe quel secteur. La santé, même l'extraction pétrolière, on peut avoir, je pense à un exemple de start-up issu de Polytechnique qui fait de la mesure de fuite de gaz dans les puits.
Oui.
C'est une start-up et elle a vocation à prendre le marché mondial, c'est pas simplement quelque chose de très local, mais sur un marché qui a du mal, enfin sur un secteur pardon, qui a pas souvent de nouveaux acteurs qui rentrent comme ça, mais ça reste possible. Tous les secteurs sont éligibles.
Je suis désolé, je dois être un peu bête, hein, parce que j'ai toujours pas compris. 150 000 entreprises, 300 000 qui se créent, 150 000 dans le spectre, mais pas 150 000 startups. Donc j'arrive toujours pas à comprendre combien il y a de startups. Alors, le point de départ, c'était, je le rappelle, de dire qu'il se crée plus de start-up de ce côté-ci que de l'autre côté de la Manche, ou du Rhin d'ailleurs, enfin, ou de n'importe quoi. À partir du moment où on ne sait pas déjà combien on en crée, on va avoir du mal à se comparer.
Aujourd'hui, on manque cruellement. C'est vraiment un constat d'étonnement que je fais. On manque cruellement de données caractérisant les activités qui se créent. Donc après, on peut extrapoler sur un certain nombre de chiffres. Moi, il y a un chiffre que j'aime bien, qui n'est pas un chiffre de création, mais de stock, donc de société existante. Si on part de l'idée qu'en Ile-de-France, il y a 10 000 entreprises extrêmement innovantes, c'est la pointe de ce qui se fait en termes d'innovation, et que l'Ile-de-France représente à peu près 60% des entreprises françaises, on fait vite fait une règle de 3, on arrive grosso modo à 20 000 sociétés en France extrêmement innovantes qui seraient réparties sur le territoire. On est quand même loin des 300 000.
Ouais.
On est très très loin des 300 000. Après, sur la base de toutes les sociétés qui se créent annuellement, je rappelle simplement le chiffre, toutes sociétés confondues, hein, quel que soit le statut pour l'année 2014, c'est 550 000 sociétés, dont 283 000 auto-entrepreneurs. Donc on a une vraie large position des auto-entrepreneurs. Si là-dessus on dit qu'en prenant plutôt les SARL, plutôt les SA, donc les sociétés anonymes, qu'elles soient à actionnaires uniques ou pas, peu importe, on arrive grosso modo à une cote mal taillée de 165 000 sociétés qui potentiellement pourraient être des startups. Donc déjà on est très très loin des 300 000 annoncés.
Mais faut pas oublier que stock et finalement ce qu'on nous annonce comme création c'est plutôt un stock.
Oui, c'est, C'est un mixte, probablement, oui. En raclant tous les fonds de tiroir, en disant c'est le stock plus les créations nouvelles. Mais il faut se rappeler qu'on est essentiellement sur des postures de politiques. Ils essayent de donner une image d'attractivité du territoire pour faire venir, pour faire croître le nombre de start-up.
J'entends bien. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu nous dis, parce que notre ami Cameron, justement, n'a pas été le dernier à faire ça et à nous traiter de tous les noms pour faire venir les entrepreneurs en masse. Enfin, c'est ce qu'on a entendu, du moins. C'est ce qui a fait la une des journaux. Traverser la Manche et venez vous installer chez nous. Au moins, il n'y aura pas d'impôts. Comme quoi, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais allés au Royaume-Uni et qui n'ont jamais payé leurs impôts là-bas. Ce n'est pas mon cas. Donc, ils ne savent pas qu'ils ont payé beaucoup plus d'impôts que chez nous. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais bon, déjà, comment on peut se comparer? Bon, voilà, on n'arrive déjà pas vraiment à voir ce chiffre ici. Et au Royaume-Uni, alors combien? Et Eurostat, ils font quoi?
C'est tout le problème. On est sur une guerre des chiffres et je fais le constat qu'on est sur une guerre des chiffres où on n'a pas intérêt à ce qu'on puisse vérifier les chiffres. Aujourd'hui, il nous manque une base statistique qui normalement devrait être dévolue à l'INSEE chez nous, à Eurostat au niveau européen. Il y a quelques tableaux qui sont donnés, mais ils sont invérifiables. On a quelque chose qui aujourd'hui n'a pas une base suffisamment solide pour qu'on dise sans nous tromper, on peut dire qu'il y a tant de sociétés qui se créent, des start-up encore une fois, on parle de start-up uniquement, qui se créent à Londres, ou qui se créent à Munich, ou qui se créent à Paris. Ce qui crée un flou artistique qui permet à chaque gouvernement de dire c'est Paris la place la plus intéressante pour créer une start-up, ou non, Berlin en ce moment explose parce qu'il y a plein de start-up qui se créent. N'ayant pas de chiffres, on pourra tout le dire. Et c'est vrai, ils ont quelque part, ils ont raison, autant qu'ils le fassent. Il n'y a pas de chiffres, on ne peut pas confronter. Ouais. Disons-le, profitons de ce flou artistique pour le faire. Maintenant, je trouve ça dommage, parce qu'il y a une vraie opportunité pour l'économie, notamment française, mais toute l'économie, de comprendre quel est le mécanisme de vie d'une start-up, où est-ce qu'elle se place. C'est pas dire n'importe quoi, c'est de faire le constat qu'il y a une vraie opportunité, qu'une start-up irrigue l'économie, de fait, sur de nouveaux secteurs, qu'elle va peut-être enlever une partie des revenus d'un secteur et qu'elle va le déporter sur un autre parce qu'effectivement, elle offre peut-être un meilleur produit, de meilleurs services ou un produit ou un service différent, mais ça va irriguer l'intégralité de l'économie et surtout, ça va la renouveler.
Alors, je comprends ce que tu nous dis. En gros, l'économie est un élément constitutif de l'idéologie, mais ça, c'est pas vraiment nouveau. Nous sommes des entrepreneurs, on s'en moque un peu de l'idéologie, ça nous intéresse pas tellement. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, justement, pour essayer de mieux comprendre ce paysage et de faire la différence entre la réalité et la fiction?
J'aimerais bien, je me dis qu'il y a une opportunité j'espère pouvoir embarquer l'école sub de web dans cette réflexion, et peut-être d'autres d'ailleurs, à dire il faut absolument qu'on crée une plateforme de référencement qui soit transparente et qui soit ouverte. Alors probablement qu'il y aurait à mettre en place une association avec French Tech, avec d'autres organismes qui sont très très proches des start-up, et puis probablement aussi une cellule comme la cellule de l'État Open Lab, qui permet de donner accès aux chiffres, aux vrais chiffres de l'État. Si on donne des chiffres, on donne l'opportunité à des gens de comprendre comment fonctionne le mécanisme et de créer de nouveaux business à partir de ça. Donc c'est un entrant obligatoire que d'avoir des chiffres fiables pour pouvoir créer des activités. Je pense pouvoir aller un peu plus loin en disant on crée une base unique référençant toutes les sociétés qui se créent. Et j'aimerais bien aussi avoir une base qui puisse faire un peu de retour d'expérience. On a eu quelques exemples avec des structures comme Qui va couler ou Note ta start-up. où on était presque dans le côté un peu péjoratif du truc. Mais je suis sûr qu'on peut se rappeler qu'il existe ou qu'il a existé début des années 2000 des startups extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, on voit des nouveaux acteurs arriver et le marketing fait son job en disant nous sommes les premiers. Non, ça a déjà été inventé et presque tous les matins, je me bats avec avec Stéphane Soumier de BFM sur ce sujet-là en disant on montre une super start-up nouvelle qui va lancer un nouveau produit. Oui, c'est que vous oubliez que ça a été inventé il y a 20 ans dans tel
la secteur. Caricature étant cette fabrique internet d'Allemagne, de Berlin, qui est spécialisée en duplication et en tout. Voilà, on prend Zappos, on garde les deux premières lettres et on crée Zalando.
C'est ça, et à un moment donné, je dis à mes étudiants, hein, je suis plutôt très franc du collier avec mes étudiants, j'aurais dit, écoutez, faire du copycat sur une idée qui marche aux États-Unis, c'est bien. Maintenant, vous pouvez aussi avoir vos propres idées et ne pas être que simplement sur je récupère une idée, je la transforme un peu, je la localise, et puis bingo, c'est parti, et je la revends, parce que c'est aussi l'idée. C'est typiquement le business model de Rocket, hein, ils ne s'en cachent pas non plus, de dire voilà, on fait, on lance le maximum de startups, on les revend 2 ans après, une fois qu'on a prouvé que ça marche, et on retire un revenu substantiel. Ils ont un business model, ça fonctionne. Maintenant, je pense qu'il y a aussi la place pour d'autres business models un peu différents.
D'accord. Voilà, bah, il reste à créer cette start-up des start-up. Tu penses lancer ça quand ?
Je réfléchis à ça pour que ce soit alors presque en parallèle du programme de start-up digital de Subdoweb pour la rentrée 2014, donc septembre 2014. Et je vais essayer d'embarquer les deux classes, donc M1 et M2, sur ce projet-là et qu'on construise quelque chose qui probablement sera en ligne soit sur fin novembre ou début janvier 2016 pour que les gens puissent commencer à s'agréger dessus. Et j'espère énormément d'organismes proches du monde des startups aujourd'hui qui puissent nous dire ok, on y va, on se met tous ensemble et tous ensemble on y arrivera.
Les interviews de Visionary Marketing pour tout savoir sur l'innovation, le marketing, les startups et bien plus encore.